Bonjour et bienvenue à la 39e édition de Litteramour. Vous écoutez le podcast franco-allemand de littérature en compagnie de Sigrid Brinkmann. J'ai enregistré cet épisode au sud-ouest de Berlin, au bord du lac Wannsee, Colombierstrasse 3, dans le jardin de la Villa Liebermann, transformé en 2006 en musée par un groupe de citoyens engagés. En 1909, le peintre Max Liebermann avait acquis du terrain au bord du Wannsee. Il avait fait construire une grande maison et aménager ce qu'on appelle un jardin réformé. Il utilisait la villa principalement comme résidence d'été. Sinon, il habitait au centre de Berlin, sur la Pariser Platz, à côté de la porte de Brandebourg. Plus de 200 tableaux ont été créés dans sa villa. Autrefois, des éditeurs, des médecins, des propriétaires d'usines et des députés vivaient dans le voisinage. Aujourd'hui, des clubs d'aviron et de voile, des clubs de ski nautique, des écoles et des institutions médicales s'y ont installés. La maison de la conférence de Wannsee, où fut décidée l'extermination des Juifs d'Europe en 1942, se trouve également à quelques pas de la villa. Max Liebermann, cofondateur et membre du comité directeur de la session berlinoise et président de l'Académie des arts en Prusse jusqu'en 1933, est mort en 1935. Sa veuve Martha a été contrainte par les national-socialistes de vendre la maison. L'écrivaine Magdalena Zeiger a étudié l'histoire à Berlin et à Madrid. Dans son livre poétique « Au bord de l'eau, la maison », elle raconte l'histoire de la Villa Liebermann. Nous nous sommes rencontrés dans le jardin de la villa par un après-midi venteux de la fin mars. J'ai d'abord demandé à Magdalena Zeiger quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la maison.
Also, der Auslöser war tatsächlich ein Besuch genau an diesem Ort,
wo wir L'élément déclencheur a été une visite à cet endroit précis où nous entrons actuellement, dans le beau jardin et sur le chemin qui mène au lac. Je suis venue ici il y a des années avec des amis berlinois. Nous avons passé une belle journée d'été dans ce jardin. Et lorsque j'ai regardé l'exposition permanente de plus près, je suis tombée sur l'histoire de la maison, qui était bien plus que l'idylle que le peintre s'était créée, mais qui a subi de nombreuses ruptures au cours du XXe siècle. La maison a été vendue de force. Elle a servi comme hôpital, elle a été siégée d'un club de plongée, et elle est restée vide à plusieurs reprises. J'ai été fascinée par tout ce qui s'était passé ici et je me suis demandé ce qui restait d'un lieu, d'un bâtiment, d'un jardin, lorsque la forme architecturale change. Dès que les gens ne sont plus là, dès que de nouveaux arrivants l'animent, la redéfinent à leur manière et le transforment et font revivre. Et c'est ce que j'ai essayé de capter en écrivant de petites scènes littéraires.
Nous voilà au jardin. C'est vraiment une petite allée de bouleaux qui a été créée. J'ai visité cette maison et son jardin il y a bien des années, mais ce n'est qu'en lisant votre livre que je me suis rendu compte des efforts déployés par Max Liebermann et son ami Alfred Lichtwark qui dirigeait la Kunsthalle à Hambourg pour concevoir et réaliser ce jardin. Ils se sont écrits beaucoup de lettres et se sont concertés sur ce qu'il fallait planter à tel endroit, sur les statues qui pourraient éventuellement être placées ici, notamment une sculpture d'Auguste Rodin. Le chapitre qui s'intitule « Planification » est celui où l'on fait la connaissance du lieu et lentement on se glisse en quelque sorte dans la pensée de Liebermann. Est-ce que c'est aussi le premier chapitre que vous avez écrit?
Angefangen habe ich wirklich mit einem dieser Zwischenbilder, die ganz kurz sind, fast so wie...
J'ai commencé par écrire un de ces tableaux intermédiaires, c'est-à-dire des scènes très courtes, comme de longs poèmes ou des considérations sur la nature. Je les ai placés entre les chapitres. Je voulais d'abord m'approcher de ce lieu. Mais oui, le chapitre sur la planification s'est formé aussitôt. J'ai fait des recherches, bien sûr, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas inventer des choses qui se sont peut-être passées autrement. Je suis historienne, et pour tout ce qui concerne l'histoire de la famille Liebermann, je ne devais pas passer outre les faits. J'ai donc commencé à lire des documents et j'ai découvert la correspondance avec Alfred Lichtwag. Elle a été publiée en annexe d'une thèse. Et puis, j'ai constaté que c'était de la littérature. Les lettres sont d'une langue incroyablement belle. Ces deux hommes âgés cultivent leur amitié et se consacrent à la planification de ce jardin avec une méticulosité, un amour pour le détail et une expertise qui sont remarquables. Et cela va de la question de savoir où l'on pourrait placer une sculpture de Rodin à celle de savoir comment obtenir du sang de l'abattoir pour mieux fertiliser le sol. Les deux hommes abordent toutes sortes de questions. Quelle teinte fleurit en avril et se mélange bien avec une liane de fleurs qui vient d'en haut et qui sort ses bourgeons en mai, et ainsi de suite. Donc ils discutent les détails les plus fins dans un langage très poétique. D'habitude, je ne suis pas nostalgique, mais je me suis vraiment dit que ce genre de culture épistolaire n'existe plus, et c'est pour cela que j'ai inséré beaucoup de citations dans ce chapitre.
Dieses Haus hat etwas sehr Schlichtes, Schönes, sehr Starkes.
Cette maison a quelque chose de très simple, de beau et de très fort. Dans un passage, vous écrivez, elle est posée dans le sable. Elle a du poids et le poids pèse lourd, pourvu que le sable tienne. La maison vous paraît comme une coque de pierre pour protéger la vie éphémère et en général tout ce qui est fugace. Mais cette maison est aussi devenue une entrave. Liebermann est mort en 1935. 5 ans plus tard, sa veuve Martha Liebermann a été contrainte de vendre la villa du Wannsee, tout comme leur maison de la Pariser Platz et toutes sortes d'objets de valeur. C'est un sentiment douloureux qui s'installe à la lecture, aussi parce que vous captez si bien à quel point Liebermann tâchait de se calmer. Il était lucide, mais préférait se distraire parce qu'il ne voulait pas tout abandonner et partir.
Also, es gibt eben ein Kapitel, da erleben wir den alternden Liebermann Anfang der 30er Jahre und das ist tatsächlich das Kapitel, es ist überschrieben mit dem Titel Abschiede, weil ihm auch bewusst ist, dass er von
vielen. Il y a donc un chapitre où nous voyons Liebermann vieillir au début des années 30. Le chapitre est intitulé « Adieu » parce qu'il sait qu'il va renoncer à beaucoup de choses. D'une certaine manière, il fait ses adieux à cette maison, mais il fait aussi ses adieux au monde entier auquel il a cru. Ce chapitre a gagné en actualité ces dernières années. Je pense à la montée de la droite et aux hostilités que subissent des gens qui ne sont pas nés ici. La fin terrible a été épargnée à Liebermann parce qu'il est mort en 1935. Mais il a vécu des hostilités en tant que professeur, comme président de l'Académie des Beaux-Arts et peintre de renommée. Son statut ne le protégeait pas et sa veuve était même menacée de mort.
Ja, dann in einem so existenziellen Maße
bedroht war und sich das Leben genommen hat.
Elle s'est suicidée. Il faut qu'on aille ailleurs, le vent souffle trop fort. Martha Liebermann, elle se rend compte avec amertume du peu de gens qui sont venus aux funérailles de son mari en 1935. Seules 40 personnes se sont rassemblées, parmi lesquelles quelques peintres. Oskar Kokoschka se distingue particulièrement. Il avait publié un hommage dans un quotidien, c'était courageux. Je trouve très bien que vous documentiez cela pour les lecteurs qui connaissent peu la biographie de Max Liebermann.
Zu dokumentieren, also für alle, die sich mit Liebermann vielleicht noch nicht so befasst haben oder wenig über sein Leben wissen, dass man das auch noch mal ganz klar vor Augen führt.
Ja, dieses Begräbnis war plötzlich ein politisches Statement. Also es
oui, la participation aux funérailles équivalait à une prise de position politique. Il y avait des rumeurs comme quoi la participation pourrait être interdite. Ce n'était pas vrai, mais il fallait partir du principe que l'enterrement serait observé et perçu comme un rassemblement politique. Et vu l'importance de la chute de celui qui portait tant de titres et mérites et qui disposait d'incroyables réseaux, cela dut paraître dérisoire. Mais d'autant plus important pour sa famille étaient ceux qui sont quand même venus et lui sont restés fidèles. Même après que ces distinctions lui aient été retirées par le régime.
Il faut trouver un coin derrière la maison. Le vent fait trop de bruit.
Allons voir la belle peinture murale. Elle aussi a été restaurée par l'association culturelle. Je lui ai consacré un de ces petits tableaux poétiques du livre. Cette petite loggia avec la peinture murale a été retrouvée, effectivement, dans le cadre de la restauration.
Sie schlagen ja in Ihrem Buch wirklich verschiedene Töne an. Wenn wir nochmal bei der Martha Liebermann bleiben, was mir da sehr gefallen hat. Il y a des tonalités très différentes dans votre livre. Restons-en avec Martha Liebermann. Vous écrivez que sa manière de parler était quelque peu trouée parce que son esprit désespéré trouvait de moins en moins d'appui dans le présent. Elle est absorbée par son propre monde imaginaire. Puis elle revient à la réalité. Elle sait qu'elle va quitter ce monde parce qu'elle ne veut plus subir le régime nazi qui la menace et qui avait ordonné sa déportation.
Dieses Martha-Kapitel ist ja insofern ungewöhnlich, als ich ja eigentlich eine Hausbiographie sozusagen schreiben wollte.
Ce chapitre de Martha est inhabituel dans la mesure où je voulais en fait écrire une biographie de la maison. Toutes les scènes se déroulent ici. Mais Martha Liebermann a passé la dernière étape de sa vie à Berlin Tiergarten et elle est morte à l'hôpital israélite des suites de sa tentative de suicide. Le processus de mort s'est prolongé douloureusement. J'ai trouvé cette vente forcée de la maison si fondamentale que je me suis dit que je ne pouvais pas laisser disparaître ses habitants et que Martha Liebermann devait avoir emporté cet endroit avec elle, d'une manière ou d'une autre. J'ai donc imaginé cette vieille personne mourante qui ne tient plus à ce qui a fait sa vie. Je me suis dit que des images avaient dû surgir, elles sont presque oniriques. Les notions de temps et de lieu se mélangent.
Da können sie vielleicht wieder aufgetaucht sein und zum Teil sind es ja dann fast traumartige Bilder auch, wo sich dann auch Zeit und Ortsebenen irgendwie vermischen.
Ja, dieses Haus mitnehmen in gewisser Weise tut das ja auch die Urenkelin. Oui, porter cette maison en soi, c'est ce que fait l'arrière-petite-fille qui a droit à son propre chapitre. L'arrière-petite-fille Catherine Wilde qui vient à Berlin en 2006, invitée par l'association culturelle qui a initié la restauration de la villa et qui fait également avancer la muséification. Et là, vous avez imaginé une scène où l'arrière-petite-fille très fatiguée par cette visite à Berlin, marche tôt le matin à travers le jardin vers l'eau, vers la rive du Wannsee. Elle s'imagine que son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère ont pris ce même chemin à travers le jardin, pieds nus en été, et qu'elle porte en quelque sorte ces trois femmes en elle. Die nie hier gewesen war vor ihrer Geburt in Amerika.
Ja, das Kapitel insgesamt stellt ja eher die Frage, gibt es diese Art von Zugehörigkeit bei dieser Familiengeschichte nach Generationen wirklich?
Oui, le chapitre dans son ensemble pose plutôt la question de savoir s'il peut y avoir un profond sentiment d'appartenance à travers les générations. L'association qui s'engage pour le maintien de la mémoire de l'histoire des Liebermann y croit sûrement. Quand je pensais à l'arrière-petite-fille, et j'ai effectivement imaginé son séjour et la scène au jardin, je me suis dit qu'il n'était pas possible qu'elle revienne à la maison comme si c'était un chez-soi. Ce serait du kitsch à mes yeux. On voit qu'elle ne se sent pas vraiment à sa place. Tout le monde connaît les membres de sa famille par leur prénom et des détails biographiques bien mieux qu'elle. Et ce moment que vous avez mentionné, il sert comme une sorte de pont. C'est un moment joyeux quand elle sent le vent dans le creux de ses genoux. Cette image du vent dans les genoux apparaît aussi dans le chapitre consacré à Martha. Elle crée un lien. Cette scène contient aussi l'espoir qu'il y a des moments d'attachement, que tout n'est pas broyé par cette histoire brutale et que seule l'étrangeté s'installe. Mais en somme, je ressens une ambivalence face à cette constellation.
Nehme ich das ganz ambivalent wahr.
Ja, das ist ein sehr intimer Moment auch. Und ich fand dieses Kapitel sehr gelungen, weil c'était un moment très intime, cette scène au jardin tôt le matin. J'ai trouvé ce chapitre très réussi parce que toute l'ambivalence est mise en valeur. Ainsi, l'arrière-petite-fille se sent observée. On s'attend constamment à ce qu'elle fasse référence à quelque chose qu'elle n'a pas pu connaître. Elle a grandi dans un monde complètement différent.
Interessanterweise ist sie ja Malerin.
Il est intéressant de noter qu'elle est peintre, qu'elle vit aux États-Unis et qu'elle a exposé des toiles dans une galerie berlinoise dans le cadre de sa visite. Oui, cette scène se déroule ici et se rattache peut-être à la thématique de Liebermann, à un moment tardif, alors qu'entre-temps, pendant de nombreux chapitres, la maison était occupée et animée tout autrement.
Zum Beispiel durch das Reichspostministerium. Par exemple, par le ministère de la Poste du Reich, Wilhelm Ohnesorge a été l'un des plus anciens compagnons de route d'Hitler. Vous décrivez son attitude autoritaire, de même la physionomie des jeunes filles qui accueillent le ministre au portail de la villa. Conforme à l'époque, elles se tiennent très droit, la poitrine tendue, les cheveux clairs brillent, les ourlets de leurs jupes sont raides. L'esprit dominateur de ce ministre qui s'exprime dans tous ses gestes est très bien saisi. Il n'est pourtant pas facile de s'imaginer que tous ces nazis étaient ici. Der sich in all diesen Gesten ausdrückt, ist sehr, sehr gut eingefangen. Und das fällt schwer, sich vorzustellen, dass die hier waren.
Ja, ist interessant. Das war das Kapitel, mit dem ich mir wirklich am schwersten getan habe, oder speziell die Figur dieses Reichspostministers.
Oui, c'est en fait le chapitre que j'ai eu le plus de mal à écrire. Le personnage du ministre de la Poste du Reich, plus particulièrement, me posait des problèmes. Il n'a pas habité la maison. Des collaboratrices de la Poste du Reich ont pu l'utiliser comme une maison de formation et de repos. Il était très fier d'avoir réussi à obtenir cela pour la Poste du Reich. J'ai commencé ce chapitre plusieurs fois et j'ai toujours eu l'impression que j'inventais le prototype cliché d'un nazi. Je ne voulais pas ça et je n'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant d'un point de vue littéraire. Et c'est alors que je suis allée à Koblenz aux archives fédérales où sont conservées les archives privées de Wilhelm Ohnesorge. Je m'attendais à une carrière nazie qui serait documentée et ce sur quoi je suis tombée, ce sont avant tout toutes ces notes techniques et les innombrables brevets qu'il a déposés. Donc on comprend qu'il est vraiment du métier. Il a déjà travaillé très jeune pour la Poste du Reich à l'époque de l'Empire et a déposé son premier brevet de télécommunication à 18 ans. On pourrait dire qu'il était un vrai geek qui a rapidement fait carrière quand les signes politiques correspondaient à ses convictions et qui a réussi à devenir ministre. La deuxième chose que j'ai trouvée aux archives, c'est qu'il a mené une vraie guerre matrimoniale. J'ai lu la correspondance avec l'avocat qu'il avait mandaté de procéder au divorce de sa deuxième femme. Il a argumenté, très sûr de lui, qu'il ne pouvait pas laisser seule cette pauvre fille de 18 ans, qu'il avait emmenée d'Autriche au congrès du parti à Nuremberg pour en faire sa secrétaire à Berlin. Il mettait constamment en tort sa deuxième femme. Je suis donc repartie en ayant l'impression d'en savoir assez sur lui pour pouvoir écrire le chapitre.
Ständig ins Unrecht setzt und ich fuhr zurück und hatte aber den Eindruck, jetzt weiß ich genug von ihm als Typen, um dann auch dieses Kapitel schreiben zu können.
Sie hatten ja erwähnt, dass die Zwischenbilder, also vous avez parlé tout au début des tableaux intermédiaires, c'est-à-dire des miniatures littéraires qui lient les chapitres et qui se réfèrent aux habitants de la maison et aux différentes associations et institutions qui y ont résidé. Je voudrais bien que vous lisiez un chapitre. Allons faire le tour de la maison pour trouver une table. C'est peut-être plus facile si vous êtes assise. Le chapitre commence à la page 145. War Seite 145. Ich habe es auch. Ja, Sie haben es ja auch dabei natürlich.
Zwischenzeiten. Die viele Zeit. Eine Schneise geht durch hohes Gras. Jemand, ein Unbefugter, hat hier ein Boot zum Wasser geschleift. An anderer Stelle verschwindet unter hohem Gras die Grenze zum Nachbargrundstück.
Le temps qui passe. Un chemin traverse le terrain envahi par les herbes sauvages. Quelqu'un, une personne non autorisée, a traîné un bateau jusqu'à l'eau. À un autre endroit, la limite avec la propriété voisine disparaît sous l'herbe qui pousse haut. Des hommes ou des renards sont passés par-dessus. Les hautes herbes se dressent au-dessus des traces d'hommes et de renards. Dehors, contre la clôture, il y a des objets encombrants. Trop volumineux pour être emportés ou sans valeur, ils glissent sur le côté et avec le temps disparaissent sous la mousse. Le ciel est changeant, parfois d'heure en heure. Une neige tombée pendant la nuit à la mauvaise saison dégouline au matin sur les bords d'une bâche de protection. L'eau est haute, l'eau tombe bas. L'eau jette sur les murs une ceinture tordue de bâtons et de paille, d'amasses d'algues et d'ordures et se retire. Une photographie tombée d'un album dans l'herbe montre un homme qui n'est plus jeune devant la cathédrale de Milan. Le chapeau de paille claire est la première chose qui perd ses contours. Quelqu'un trouve en passant quelque chose d'utile parmi les objets jetés et s'en contente pour le reste de la journée. Le ciel d'été est un bleu immuable, si clair qu'il en devient presque blanc. Les objets les plus légers s'envolent. Plus c'est facile, plus c'est loin. Un chat malade vient mourir dans un coin du mur de la terrasse. Au-dessus de l'eau, des rideaux de pluie pendent et glissent vers la gauche en direction d'un groupe de hêtres. Les objets jetés s'emprègnent, s'alourdissent, se dissolvent. L'herbe est haute. Une chaussure de bain en plastique décoloré gît dans une lumière décolorée. 5 assiettes en plastique décoloré et plusieurs fourchettes écrasées trahissent une fête célébrée en secret. Un squelette de chat décoloré repose dans l'angle du mur de la terrasse jusqu'à ce qu'un animal le traîne avec lui. Le ciel est changeant et ses intempéries creusent des sillons dans le sol. Un jour, quelqu'un prononcera à nouveau cette phrase « C'est ici ». Entre-temps, la maison est livrée à elle-même dans son errance de monde en monde.
Das ist auch eine wunderschöne Formulierung auf seiner Wanderung von Welt zu Welt. Und das sind so viele Welten, die sich hier aneinander gestoßen haben. Ein Bild dans son errance de monde en monde. C'est une très belle expression. Et ce sont tant de mondes qui se sont heurtés ici. Un autre tableau que j'aime beaucoup est celui de deux jeunes gens qui, dans les années 70, se faufilent dans la propriété laissée à l'abandon pour y passer la nuit. Le jeune homme sait seulement que cette maison a probablement appartenu à des gens riches. Il méprise tout matérialisme. Sa copine n'ose pas dire qu'elle doit chasser l'idée d'avoir déjà été ici à une autre époque. C'est très beau la façon dont vous décrivez cette tension entre les deux qui ne peuvent pourtant pas en parler.
In früheren Zeiten hier schon mal gewesen zu sein. Also sie fühlt sich verbunden.
Ja, was ich mochte an diesem Kapitel oder an diesem Moment überhaupt ist, dass er einen Zeitpunkt aufgreift, zu dem dieses Haus leer stand, der Garten verwildert war. Es gab diese Zeiten.
Oui, ce que j'ai aimé dans ce chapitre, c'est qu'il reprend un moment où cette maison était vide, où le jardin était en friche. Il y a eu ces moments où des gens ont dû venir ici et cela ne leur a tout simplement rien dit. Maintenant, on trouve des panneaux, tout est chargé de sens, car Libanman est connu. Beaucoup de gens préfèrent que la villa se soit inscrite comme lieu dans la topographie de la ville. Et c'était un beau moment littéraire d'être très libre à ce sujet. Alors que pour d'autres, j'avais justement l'impression que je devais rendre justice aux personnages historiques malgré toute la liberté littéraire. Et maintenant, il y a un chat qui passe à côté de nous.
Il habite probablement chez les voisins et se promène.
Spaziert hier rum jetzt.
Ja, und sie möge sich noch lange nicht zum Sterben an die Terrassenmauer begeben.
Oui, et qu'il n'aille pas mourir près du mur de la terrasse avant longtemps.
Tout à fait. Tout a l'air vivant ici. Alors, combien de fleurs ont été plantées tout récemment?
6640
fleurs ont été plantées hier ou avant-hier par les jardiniers. Essentiellement des fleurs précoces, Donc oui, c'est vivant.
Ja. Also ja, es lebt.
Es lebt. Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen, hat mich sehr gefreut. Danke.
C'était le 39e épisode de Literamour avec Sigrid Brinkmann et Magdalena Seiger. Je souhaite que son livre, qui est d'une finesse exceptionnelle, soit traduit en français et bien d'autres langues. Un grand merci aussi à Marie Jacquier qui a prêté sa voix à Magdalena Seiger. En attendant de vous retrouver au prochain épisode, je vous souhaite de bonnes lectures. Bien à vous et à bientôt.